得行。能说共军，说共军，共的。Alors, trois, quatre.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Krugère.
Sortez.
Bonjour Gabriel Perlmutter, je suis ravi de vous accueillir dans cette ambiance musicale qui s'appelle « Dégraisse et tue les bactéries », qui est un morceau d'Olaf Hunt, qui va forcément accompagner notre émission aujourd'hui, puisque votre livre « Les bactéries et des amis qui vous volent du bien », sous-titré « Le bonheur est dans l'intestin », qui a été écrit avec le docteur Anne-Marie Cassard, est un sujet qui est particulièrement à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que... Si on pense à la petite phrase de Vauvenargue, les grandes pensées viennent de l'estomac, on va s'intéresser à ce parcours et à ces 100 000 milliards de bactéries que nous transportons avec nous tous les jours.
Bonjour Alain, effectivement les bactéries vivent dans l'intestin et ce monde de bactéries est un monde incroyable. Rendez-vous compte, on est stérile et puis dès les premiers moments de notre vie, après qu'on ait été mis au monde, on est exposé à des multitudes de bactéries. Et ce qui est fabuleux, c'est que le nombre de bactéries dans notre tube digestif est extrêmement élevé. Rendez-vous compte, 100 000 milliards de bactéries. Si on les pesait tout ensemble, on aurait 1,5 kg environ de bactéries. Et si vous prenez 1 gramme de sel, il y a plus de bactéries dans 1 gramme de sel que de cellules dans votre cerveau. Alors une bactérie, c'est pas grand-chose, c'est tout petit. Mais quand on les met tout ensemble, ce 1,5 kg, il y a une quantité d'ADN phénoménale qui va même dépasser la quantité de notre propre ADN. Et ce qui fait que ce monde de bactéries qui est en nous vit en symbiose avec nous, ne nous rend pas malades. Nous, on peut les rendre malades, mais il y a un parfait équilibre qui, dans un monde idéal, doit se faire entre nos bactéries et nous-mêmes.
Alors ça, c'est la symbiose, mais il y a aussi la dysbiose. Alors là, je m'adresse au professeur de médecine. Hein. Alors je n'ai pas dit que vous étiez chef de service à l'hôpital Béclair, mais votre sujet, c'est le foie, mais c'est aussi donc ce sujet de recherche qui est les bactéries. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut lutter contre l'autisme, contre l'obésité, contre l'addiction?
Alors les bactéries, c'est un monde en soi. Je vous ai donné le nombre de bactéries phénoménales. Il faut considérer en fait ces bactéries comme un organe vivant. Et puisqu'on est dans l'alimentation, ce qui est très intéressant dans cet organe, c'est qu'on peut le contrôler par notre alimentation. On va acquérir des bactéries pendant notre enfance qui ensuite vont nous suivre. Mais la particularité de cet organe bactérie, c'est que en fonction de la façon dont on mange, on va les modifier en bien ou en mal, et si on le modifie en mal, la symbiose dont on a parlé devient une dysbiose qui va favoriser l'émergence de certaines maladies. Alors c'est vrai que moi au départ je m'occupais de l'intestin, du tube digestif et du foie, mais on s'occupe également de ce qu'il y a à l'intérieur et donc des bactéries. Et ces bactéries qui sont dans notre tube digestif vont interagir avec tout notre organisme. Elles vont fabriquer des produits, des hormones, elles vont développer notre immunité, elles vont interagir avec le cerveau, et c'est pour ça qu'on parle d'intestin, notre deuxième cerveau.
Ça, c'est une formule, entre guillemets, de journaliste, ou c'est une réalité objective?
C'est les deux. C'est une formule parce que la phrase choque, on a un cerveau, c'est dans la tête, et puis le deuxième cerveau, c'est l'intestin. L'intestin a toujours été sale, et puis il va à la poubelle, et donc c'est un peu une formule de journaliste, mais c'est également un deuxième cerveau, puisque le cerveau va interagir avec un énorme nombre de neurones, avec le tube digestif et avec les bactéries qu'il y a dans le tube digestif.
Donc si on examine la chose aujourd'hui,
Donc si on examine la chose, il y a une interaction, donc on peut dire que l'intestin est notre deuxième cerveau. Alors, comment on fait pour étudier cet intestin? On étudie les bactéries qu'il y a à l'intérieur et à part le phénomène de mode d'étudier les bactéries, c'est pas seulement un phénomène de mode, c'est que aujourd'hui en 2016, on sait l'étudier cet organe. Avant, on ne savait pas l'étudier parce que c'est très compliqué d'étudier les bactéries. Rendez-vous compte, elles sont dans un milieu très hostile. D'abord, vous avez l'estomac avec un pH extrêmement acide, donc peu de bactéries peuvent vivre à l'intérieur. Et puis ensuite, quand on descend dans le tube digestif, après l'estomac, on a l'intestin grêle, le petit intestin, puis après le côlon, le gros intestin, où là, l'acidité diminue, mais qu'est-ce qui disparaît ? C'est l'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène. Donc les bactéries vont vivre sans oxygène, et donc c'est très compliqué à les étudier et à les cultiver. On ne sait pas le faire, on ne sait pas bien le faire. Et du coup, avec les nouvelles techniques de biologie, on sait recueillir des sels, on sait les identifier parce qu'on ne met pas en culture les bactéries, mais on identifie leur ADN comme le nôtre. Et en identifiant l'ADN des bactéries, on sait les identifier. Et puis ensuite, pour voir leur fonction, eh bien, c'est ce que vous avez dit, on prend des souris et on greffe à des souris des bactéries. Donc soit on greffe des bactéries, des sels de souris à souris, en prenant des souris qui sont stériles, qui n'ont jamais vu une seule bactérie de leur vie, qui vivent dans des milieux fermés, un peu comme les enfants bulles, et puis on leur greffe des bactéries de souris à souris. Et on dit dans ce cas-là qu'on fait une transplantation de microbiote, de bactéries. Et puis on peut aussi, pour bien étudier directement de l'homme à la souris, faire une greffe de bactéries humaines, de selles humaines, dans une souris. Et là, on parle de souris humanisées, puisqu'on parle de microbiote humain qu'on donne à une souris. Et puis après, ce qu'on a réussi à faire, c'est directement de non plus de prendre des souris qui sont dans des milieux fermés, dans des isolateurs, mais directement pour se rapprocher de l'utilisation clinique des souris qui vivent comme vous, comme moi, en un milieu normal. Et puis on arrive à transformer leur microbiote. Et puis dernièrement, on arrive même à le faire, on va vraiment de la paillasse jusqu'au traitement de l'homme à guérir des maladies qu'on n'arrivait pas à guérir avec des risques de rechute. On pense en particulier à des colites graves en greffant des bactéries, des selles, des microbiotes d'une personne qui va bien, une personne malade. Et on arrive à guérir, à mettre en rémission la personne malade grâce à ces greffes de selles. Ça fait pas longtemps qu'on sait étudier ces bactéries, et donc on voit que le chemin parcouru est...
Pas longtemps, c'est-à-dire ?
Ça fait une dizaine d'années qu'on sait les étudier, et maintenant on arrive déjà à avoir des nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques avec une application clinique, des essais qui arrivent, et qui vont vraiment toucher toute la médecine. Non seulement évidemment le tube digestif, où ça se comprend facilement puisque les bactéries sont dans le tube digestif, mais ça va aller beaucoup plus loin, ça va aller sur le foie, ça va aller sur l'obésité, ça va aller sur le diabète, sur le cholestérol, et encore plus loin, puisqu'il y a une interaction entre notre microbiote et notre cerveau. On va aller renverser certains concepts qui, heureusement, ont déjà été renversés, comme par exemple l'autisme. On a beaucoup culpabilisé les familles, les parents, avec toutes les théories psychanalytiques qui ont été développées, où on sait maintenant qu'il y a des dysbioses associées à certaines maladies psychiatriques, aux troubles du spectre autistique, mais même au stress. Et on espère que, en ciblant la dysbiose, on pourra... non pas guérir, mais au moins améliorer certaines personnes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Donc c'est vraiment de nouvelles perspectives qui arrivent.
Et quand on parle d'addiction, l'alcool par exemple,
ce qui va se passer, c'est que quand on est par exemple sur une addiction à l'alcool, on sait qu'il y a deux types de personnes alcooliques. Il y a des personnes alcooliques qui ont une augmentation de la perméabilité de leur intestin aux produits bactériens, et d'autres qui n'ont pas cette augmentation de la perméabilité digestive. Et lorsque ces personnes arrêtent de consommer de l'alcool, les symptômes d'addiction, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible d'aller consommer de l'alcool, l'anxiété liée à l'alcool, le stress, va plus diminuer chez les personnes qui n'ont pas de troubles de la perméabilité intestinale. Et donc, on peut très bien se demander, puisque c'est très difficile de traiter l'addiction à l'alcool, on ne peut pas dire à quelqu'un « arrête l'alcool, t'as qu'à pas boire ». C'est comme si on dit à quelqu'un qui est gros « arrête de manger et puis tu vas maigrir ». C'est pas comme ça la médecine. Donc, quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, pour l'aider de s'arrêter, on peut très bien supposer qu'on pourrait jouer sur sa barrière digestive en changeant son alimentation, en utilisant de l'alimentation pour bactéries qu'on appelle des prébiotiques, voire des probiotiques pour l'aider dans cette addiction.
Quel exemple? Parce que vous en citez quelques-uns. Alors, on a parlé de microbiote. Ce qui serait peut-être bien, c'est de clarifier le microbiote, les prébiotiques, les probiotiques, pour qu'on puisse digérer tout cela le plus simplement possible.
Absolument. Donc, le microbiote, c'est quoi? C'est l'ensemble des bactéries. Et le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries que nous trouvons dans le tube digestif. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle pour le traitement les prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est quoi pour être simple? C'est le manger de nos bactéries. Quand vous mangez, vous allez en profiter pour vous, mais vous donnez aussi à manger à vos bactéries. Et en fonction de ce que vous mangez, elles vont être plus ou moins heureuses. Alors il y a certains produits qui sont typiquement classés prébiotiques, les fosses, les gosses, l'inuline, lactulose. Mais le problème n'est pas de rentrer dans les détails de ces noms-là, mais ce sont des produits qui ont montré leur effet bénéfique sur la santé. Et il y a un amalgame qui est fait, mais à juste titre, entre les prébiotiques, donc l'alimentation pour nos bactéries, et les fibres. Quand vous prenez des fibres, c'est beaucoup de sucre, les fibres, mais c'est des sucres que vous-même n'allez pas digérer. C'est pas votre organisme qui va les digérer, ce sont vos bactéries. Et donc, elles vont arriver peu ou pas digérées dans votre côlon, dans votre gros intestin. Et dans ce côlon, là, ce sont vos bactéries qui vont les digérer. Et ces prébiotiques, ces fibres par amalgame, à qui souvent on prête le nom de prébiotiques, vont favoriser la croissance des bactéries favorable pour votre santé et inhiber la croissance des bactéries délétères. En favorisant la croissance des bactéries favorables, ces bactéries vont fabriquer des produits plus favorables pour notre santé, vont renforcer la barrière intestinale, c'est-à-dire la frontière entre les bactéries, où elles sont bien dans notre tube digestif, et le monde intérieur, le sang, les autres organes. Ça, ce sont les prébiotiques. Vous avez ensuite les probiotiques. Les probiotiques, c'est des êtres vivants. C'est des bactéries, ça peut être aussi des levures, des champignons, mais le plus ce sont des bactéries, le plus souvent des bactéries lactiques, qui ont un effet favorable sur notre santé. Et donc ce sont des bactéries qu'on peut soit retrouver dans certains produits de notre alimentation.
Comme le yaourt.
Comme le yaourt, qui a des, par définition, il y a des prébiotiques dans le yaourt, ou dans les laits fermentés, par exemple.
C'est les ultravures qu'on donnait aux enfants quand ils prenaient des antibiotiques.
J'allais y venir. Oui. L'ultra. Alors là, les bactéries que vous avez, les probiotiques que vous avez dans le yaourt, dans les laits fermentés, ce sont des bactéries. L'ultra levure, comme son nom l'indique, c'est une levure. Donc c'est aussi un probiotique, mais d'un autre genre, mais qui va aussi avoir un effet favorable sur la santé. C'est effectivement exactement ça. Vous donnez un traitement antibiotique, c'est une bombe atomique sur vos bactéries. Et donc, si d'ailleurs vous donnez des antibiotiques de façon inadaptée à un enfant trop jeune, vous lui massacrez son microbiote intestinal et ça peut être après vraiment délétère pour la suite. Et donc, pour contrecarrer cet effet délétère de l'antibiotique, on donnait de l'ultra-levure avec une certaine logique. Les autres probiotiques, par exemple le yaourt, peuvent aussi être donnés. Ça va faciliter la digestion du lactose. Le problème du yaourt, c'est que les bactéries qu'il y a dedans peuvent être détruites au moment où les bactéries arrivent dans l'estomac où le pH est très acide, ou au début de l'intestin grêle, où elles peuvent être détruites par la bile. Et donc, on a tendance à donner des probiotiques sous forme de suppléments en parapharmacie qui sont enrobés dans un excipient, on dit, qui leur permet d'arriver jusqu'au côlon. Et ça peut effectivement aider certaines personnes pour certains troubles. On peut les donner dans les allergies, dans le stress, dans certaines colites. La limite des probiotiques, c'est qu'il y a peu de preuves de leur efficacité, non pas parce que ça marche pas, mais parce que c'est compliqué à montrer. Il y a beaucoup de probiotiques potentiels, il faut faire des grandes études, ça coûte très cher. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces.
Il y a un mot magique aussi, qui est le mot midi-chlorien, qui donne la force, hein, qui donne tellement la force qu'il la donne même aux Jedi de la guerre des étoiles.
What are midi-chlorians?
Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells.
They live inside me.
Inside your cells, yes. And we are symbionts with them.
Symbionts?
Life forms living together for mutual advantage. Without the midi-chlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. They continually speak to us, telling us the will of the Force.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Krugère.
Alors, donc on n'est pas du tout hors sujet là.
Pas du tout, c'est quelque chose de fabuleux ces midi-chloriens. Quand vous pensez Louis Pasteur, qui a beaucoup travaillé sur les bactéries, et un siècle après, George Lucas avec les midi-chloriens, c'est une histoire merveilleuse. Les midi-chloriens, c'est quoi? C'est, comme on l'a entendu dans l'extrait, ce sont des êtres vivants microscopiques qui vivent en nous, qui vivent en symbiose avec nous, et si on en a suffisamment, qui nous donnent la force et la possibilité un jour de devenir Jedi et que la force soit avec nous. Et donc, ça vous fait penser à quoi ces midi-chloriens? Ça fait penser évidemment aux bactéries qui vivent en nous. Vous avez la symbiose, vous avez la diversification, il faut en avoir beaucoup comme nous. Plus on en a, plus elles sont diversifiées, plus on va bien. Et elles nous donnent la force, elles nous donnent la bonne santé quand elles sont en forme avec nous. Et vraiment, la translation en un siècle et cette vision de George Lucas sur ces midi-chloriens, je la trouve extrêmement forte.
Oui, donc la grande menace, ce ne sont pas les microbes, c'est autre chose. C'est ce qui est autre chose en nous, d'ailleurs. Parce que, alors, vous dites qu'il y a les bonnes bactéries, mais aussi les mauvaises bactéries.
Absolument. Donc, les mauvaises bactéries, on les connaît tous. On sait souvent lutter contre les mauvaises bactéries. Et nos bonnes bactéries, d'ailleurs, nous aident à lutter contre ces mauvaises bactéries.
Alors, quelles sont-elles, ces mauvaises bactéries?
Une des bactéries les plus délétères, et c'est vraiment la caricature pour l'utilité du microbiote intestinal, c'est le Clostridium difficile, qui est sélectionné quand on donne des antibiotiques, souvent à une personne âgée, qui va bien répondre aux antibiotiques, qui va guérir de son infection. Mais comme elle est un peu fragile âgée, ces antibiotiques vont favoriser la sélection d'une bactérie délétère, le Clostridium difficile, qui va rendre malade secondairement cette personne âgée. Et pour traiter cette bactérie qui a été sélectionnée par un antibiotique, jusqu'à maintenant, on donnait d'autres antibiotiques. Et ça marchait, mais pas si bien que ça, parce que les récidives étaient extrêmement fréquentes. Et aujourd'hui, le meilleur traitement pour guérir de cette infection secondaire à un traitement par antibiotique, c'est de donner des bactéries pour aller empêcher la croissance par un antagonisme, en fait, entre micro-organismes, empêcher la croissance du Clostridium difficile. Et ça aussi, c'est quelque chose de...
C'est la guerre des microbes.
C'est la guerre des microbes. Ouais. Et il y avait Ernest Duchesne, qui avait fait un français, qui avait fait sa thèse aussi à la fin du 19e siècle, où il parlait de l'antagonisme entre micro-organismes. Et c'était le premier à parler des pénicillines. Et il avait été complètement oublié. Et en fait, c'est quelque part le premier qui a pensé aux antibiotiques et à l'utilité d'utiliser des micro-organismes pour lutter contre d'autres micro-organismes.
Et ça, on arrive à les réguler, parce que moi, ce qui me fascine, c'est de voir que le vivant, enfin, l'essence même du vivant, c'est des bactéries, des virus, des levures. On parlait de pénicilline, ces petits champignons qui font ce délicieux fromage de Roquefort, ce croisement de micro-organismes est absolument passionnante dans notre bol alimentaire. Alors, on n'a pas parlé de bol alimentaire, mais on pourrait en parler.
Alors, absolument, c'est passionnant. On vit avec ce monde-là. Et on ne l'a pas dit, mais si vous réfléchissez, l'endroit sur Terre où il y a le plus d'êtres vivants, par unité de surface, c'est où? C'est dans vos selles. C'est là où, sur Terre, il y a le plus d'êtres vivants par unité de surface. Et donc, ces êtres vivants...
Vous pouvez donner un chiffre?
Non, on parle de densité, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais c'est le plus important. Je peux vous donner 100 000 bactéries par gramme de sel.
Voilà, c'est ça, c'est ce chiffre que j'ai lu.
Voilà, voilà. 100 000, bon, si, ça fait une densité, on est par gramme de sel, 100 000 bactéries par gramme de sel. Et donc, ces bactéries-là, il faut en prendre soin. Et donc, quand vous en mangez, vous allez manger effectivement des bactéries ou vous allez manger les aliments des bactéries en fonction de là où vous êtes sur Terre. Si vous êtes en France, par exemple, vous allez manger beaucoup de fromage. Si vous êtes au Japon, par exemple, vous allez plutôt manger des algues. Si vous êtes en Afrique, vous allez avoir une alimentation plus pauvre en viande, mais plus riche en fibres. Si vous êtes en Amérique du Nord, vous avez une alimentation riche en graisse, riche en viande. Vous allez pas manger les mêmes bactéries et ce que vous mangez va avoir des conséquences complètement différentes sur les bactéries qui vivent en vous.
Il y a une fable de La Fontaine qui est une des toutes premières, qui est Les membres et l'estomac.
Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage. À la voir d'un certain côté, Messire Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme, et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont! C'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit. Les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux, à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement, tout tire d'elle l'aliment.
À cette époque-là, on s'est beaucoup moqué des lavements, et... on sait que les lavements peuvent aussi modifier les microbes et les bactéries qu'il y a dans l'intestin. On le voit bien quand on fait, par exemple, en tant que gastro-entérologue, une coloscopie à quelqu'un. Vous lui faites ou des lavements, ou surtout une purge, et on sait qu'on peut améliorer les personnes avec ce type de purge. Il y a une grande révolution sur l'estomac. C'est la découverte qui a valu un prix Nobel d'une bactérie qui vit dans l'estomac, qui est Helicobacter pylori. C'est un monde fabuleux. On a tous appris que l'estomac était très acide, ce qui est vrai, et comme c'était très acide, il ne pouvait pas y avoir de vie à l'intérieur. Et puis, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a découvert une bactérie qui est Helicobacter pylori, et cette bactérie est tellement importante qu'on s'est rendu compte qu'elle avait un rôle causal, et c'est cette bactérie qui entraînait la survenue d'un ulcère de l'intestin ou de l'estomac. Et plus encore, cette bactérie favorise la survenue d'une inflammation de l'estomac, voire d'un cancer de l'estomac. Et une des raisons pour laquelle il y a beaucoup moins de cancers de l'estomac maintenant en Europe, c'est l'éradication de cette bactérie. Et donc, comme elle est Helicobacter pylori, on l'enlève, il y a moins de cancers de l'estomac. Mais tout le monde n'a pas qu'un côté obscur. Si on revient à la guerre des étoiles, et l'éradication de cette bactérie peut entraîner chez certaines personnes après la survenue d'un asthme, et ce qui montre bien la symbiose entre les bactéries qui vivent en nous et nous. Vous avez une bactérie, elle vous rend susceptible à faire un cancer, mais fort heureusement, toutes les personnes qui ont cette bactérie ne font pas un cancer, mais inversement, quand vous l'enlevez, vous risquez de faire autre chose, vous risquez de faire un asthme. Et cet équilibre qui existe entre nos bactéries et nous, c'est cet équilibre qui se rompt en fait en maintenant, dans les années récentes. C'est la théorie hygiéniste, en fait, où on pense que les modifications du mode de vie, les modifications de l'alimentation, la disparition des épidémies, l'utilisation d'antibiotiques, où il ne faut pas trop se culpabiliser, nous on en utilise beaucoup, mais il y a l'élevage qui en utilise beaucoup aussi, fait qu'on est exposé à des bactéries différentes, on a un système immunitaire différent, et donc les épidémies qu'il y avait avant, infectieuses, il n'y a plus. Mais on a d'autres épidémies qui sont présentes, des troubles du spectre autistique, l'obésité, les maladies cardiaques, les addictions. Et cette théorie hygiéniste d'un déséquilibre avec le monde bactérien explique la genèse l'augmentation de l'incidence de ces nouvelles maladies.
Pour réguler ce problème, la bonne démarche, qu'est-ce que c'est? C'est d'être plus en harmonie avec le vivant, de faire...
Absolument, on peut le dire comme ça, c'est joliment dit. Ça commence très tôt, en fait. Ça commence même avant qu'on naisse. Ça commence chez la maman. La maman va transmettre ses bactéries à son enfant à la naissance. Donc si l'enfant naît par voie vaginale, la maman va transmettre ses bactéries du vagin, du rectum, du tube digestif. Si l'enfant naît par césarienne, la maman va transmettre quoi? Quelques bactéries d'une peau désinfectée, puis l'enfant va être en contact avec des gants stériles, de la sage-femme, de l'obstétricien, il ne va pas être exposé aux mêmes bactéries. Si la maman, avant la naissance, prend des antibiotiques, elle va avoir des bactéries différentes, elle va avoir sa bombe atomique sur ses bactéries, elle va transmettre des bactéries qui auront été sélectionnées par un antibiotique qu'elle avait eu avant, qui vont être transmises à l'enfant. Donc, dès avant la conception, il faut penser aux bactéries que l'enfant va acquérir. Ensuite, c'est le mode d'alimentation de l'enfant, soit l'allaitement naturel, où la maman transmettra ses bonnes bactéries, sous réserve qu'elle ne prenne pas d'antibiotiques, soit l'allaitement artificiel, où ce n'est pas les mêmes bactéries qui vont être transmises. Ça va être la diversification alimentaire. Et puis, après l'âge de 2-3 ans, on considère que le microbiote de l'enfant est celui qu'il va avoir à l'âge adulte. Et donc, il va perdre cette malléabilité qu'il avait avant. Et après, c'est le mode d'alimentation qu'on va avoir, le mode de vie qu'on va avoir, qui va faire qu'on va garder une bonne symbiose avec ces bactéries ou qu'une dysbiose va apparaître qui va favoriser l'obésité, les allergies, après ça dépend de la susceptibilité individuelle, le stress, des colites, etc., etc. Donc, pour acquérir les bonnes bactéries, ça commence dès avant l'accouchement.
Et donc, s'il y a un conseil à donner pour clôturer cette émission ?
Pensez qu'on n'est pas seul, pensez qu'on vit avec un monde intérieur qui est extrêmement important, et pensez que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait pour nous, va avoir un retentissement sur ces bactéries, et du coup, les protéger dès le plus jeune âge de l'enfant quand nos enfants arrivent.
Merci Gabriel Perlemutter. Je recommande donc Les bactéries des amis qui vous veulent du bien, que vous avez coécrit avec le docteur Anne-Marie Cassard, qui est sous-titré Le bonheur est dans l'intestin, qui est chez Solar, et qui est une lecture très pédagogique. Donc nous le savions, mais le bonheur est dans l'intestin. C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Cédric Châtelus et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission éternellement, la faire écouter à vos bactéries et dans quelques instants écouter le journal sur France Culture.